Arnaud Coustillière, bonjour.
Oui, bonjour, ravi d'être avec vous.
Vous êtes vice-amiral d'escadre et vous avez publié Soldats de la cyberguerre avec Aude Leroy, qui est spécialiste de ces sujets défense et grand reporter. On va parler de ce sujet avec vous. Il y a beaucoup d'actualités, mais on va revenir un instant sur votre parcours qui est intéressant, puisque vous commencez ce livre par nous parler de votre vie dans la marine nationale. Vous avez dirigé des bateaux, vous avez commandé des bateaux et vous faites un lien, ce qui peut paraître étonnant, mais vous allez nous expliquer, entre l'esprit peut-être de la navale justement et peut-être l'état d'esprit qu'il faut avoir aussi quand on s'intéresse à la cyberdéfense. Quel est le lien entre les deux ?
Bon, le lien entre les deux, c'est que, c'est un peu mon histoire, mais ce n'est pas que ça le lien, pour le lien numérique, monde maritime. Bon, mon histoire, c'est que je viens du cœur du ministère des Armées, celui des opérations navales, qui a occupé une très grande partie de ma carrière. Puis, à un moment donné, où on se fait plus vieux, où on navigue moins, la dominante numérique a pris le pas sur la dominante des opérations. Et effectivement, ma fin de carrière, une bonne moitié de ma carrière a été dominée par le domaine numérique. Ce qui est intéressant, c'est que ce numérique que l'on a du mal à explorer, qu'on a du mal à cerner, qui est très virtuel, pose des défis, et notamment le défi de la souveraineté. Et on a eu un précédent. Le précédent, c'est le monde maritime. Le monde maritime, c'est comme le numérique, un monde qui a sa propre dynamique, qui a ses forces, qui a sa... Typiquement, il y a des puissances, la puissance de la mer, on ne l'affronte pas, on compose avec elle. Il y a des zones un peu comme le dark web qui sont mal cartographiées, qui sont mal connues. Et puis après, c'est un endroit où l'homme, les sociétés humaines ont eu quelques grands défis à régler, celui de la piraterie. Et effectivement, la piraterie, aujourd'hui, les nations reconnaissent que la piraterie est un mal et autorisent une nation d'un drapeau X à intervenir sur le navire d'un drapeau Y. Donc, des partages de souveraineté. C'est aussi intéressant puisque c'est des zones à géométrie de souveraineté variable. Et plus on s'éloigne des côtes, moins la souveraineté des États s'exerce. Il y a des zones où un État coordonne l'exploitation, les zones économiques exclusives. Voilà, donc c'est un monde qui c'est un monde où, pareil, au XVIIIe siècle, les rois ont été défiés par la puissance des grandes compagnies maritimes, quasiment compagnies des Indes, aussi bien françaises qu'anglaises, qui sont devenues aussi puissantes que les États avant que les États réagissent. Bon, maintenant, le droit maritime, toutes ces choses-là ont mis 300 ans à être régulées. Droit maritime, en gros, la convention principale, c'est 1968. Je pense que dans le numérique, vu le chaos qui est devant nous, on n'a pas 300 ans pour se réguler.
Oui, c'est ce que vous dites dans le livre. Effectivement, il faut sans doute aller plus vite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez d'un esprit, vous parlez justement de l'humilité, en quelque sorte, des marins face à la mer, face à cet océan, face à la manière dont l'océan, je dirais, se comporte, on pourrait dire ça. Et vous dites, il y a aussi une solidarité, chacun sait ce qu'il doit faire. Et quand vous dressez le parallèle entre justement votre expertise, votre expérience de marin et la cyber, au début en tout cas de la cyber, vous dites qu'il faut aussi trouver cet esprit-là. Et là, on est dans complètement un autre univers, mais il faut avoir cet esprit d'équipe, de compétences diverses, de profils divers aussi.
Oui, en fait, il faut... Pour moi, le numérique est devenu un milieu à part entière, un milieu artificiel que l'on a créé, mais comme la Terre, l'air, il n'y a qu'à regarder le nombre d'heures que l'on passe tous les jours, à quel que soit notre âge, sur notre téléphone portable ou derrière notre ordinateur. Donc on a une vie dans ce monde. Et tous les problématiques, les défis qui sont devant nous, il y en a autant qui sont plus sociétaux que techniques. La technique a sa dynamique, elle évolue. Donc, puis en plus, c'est un milieu qui transcende un peu, qui gomme un peu les frontières, qui gomme les cultures, tout en permettant de les réaffirmer fortement. Donc, c'est un milieu où, quand on veut peser, il faut être au cœur de son écosystème. Donc, il faut avoir des gens dans cet écosystème. Et ce n'est pas forcément les acteurs classiques. Typiquement, vous prenez les opérations militaires que je décris, quand vous faites des opérations de contre-influence sur les réseaux sociaux, vos partenaires naturels qui sont les plus efficaces, ce n'est pas forcément l'armée X qui est votre allié sur les théâtres de combat. Par contre, ça risque d'être plus, vous avez besoin d'avoir une coopération avec les GAFA, vous avez besoin d'avoir une coopération avec les forces de police, avec ceux qui signalent, voire avec les influenceurs. Donc, vous devez être dans cet écosystème et donc vous reconstituer un l'écosystème qui est important. Puis deuxième chose, je pense qu'il y a un milieu face auquel il faut être extrêmement humble. Moi, les gens qui sont trop sur deux dans le domaine de la cyber, pour moi, c'est des charlatans. J'ai eu la charge de la protection d'un ministère comme celui des armées qui est extrêmement complexe. Faut avoir une bonne dose d'optimisme, croire en l'avenir et puis être capable de se reconfigurer très vite. Tous les 6 mois à peu près, on a des petites révolutions technologiques. Le métaverse en ce moment n'est même pas encore sec, qu'on est déjà sur l'IA générative qui permet à la fois des progrès pour se défendre, mais qui permet aussi des progrès beaucoup, beaucoup pour les attaques se sont structurées. Donc il faut avoir l'esprit très ouvert, humble, et avoir des partenaires, je pense.
Alors, dans ce livre, hein, vous expliquez aussi votre parcours. Et ce parcours, justement, quand vous basculez de la marine à cet univers cyber, vous racontez aussi très bien que, voilà, on connaît, beaucoup de personnes connaissent le fonctionnement de l'armée, pas forcément de près. Vous dites, ça n'a pas été forcément facile au départ. Vous arrivez dans cette partie-là, vous êtes sur la cybersécurité, vous voulez des moyens, vous voulez des effectifs, vous allez vous positionner à certains endroits, certains bureaux. Vous dites, il a fallu aussi se faire accepter. Comment ça a été ? Bon, il faut bien sûr de la diplomatie, on va dire, mais il faut un peu plus pour que ça puisse se concrétiser.
Disons une diplomatie un peu coercitive. Non, mais je pense que la cyber a été un grand projet politique qui est parti du haut de l'État, puisqu'il est parti du livre blanc 2008, après des rapports parlementaires. J'aime bien souvent citer ces rapports parlementaires pour reconnaître la place et le rôle essentiel qu'ont eu nos élus pour faire bouger l'État dans ce domaine, avec la création de l'ANSSI, le rapport Lesbord en 2008. Donc il faut garder ça à l'esprit. Et c'est important aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de débats à l'Assemblée sur le numérique, sur l'IA et ainsi de suite. Donc je pense que nos parlementaires ont un certain recul, ont une capacité d'analyse et n'ont pas le nez dans le guidon comme peuvent l'avoir les différents hauts fonctionnaires et ainsi de suite. Quand je reviens à l'histoire que j'ai vécue, dont j'ai voulu témoigner, qui est avant tout une structure humaine, c'est qu'il y a eu un alignement politique par le haut. Et effectivement, après, moi, là-dedans, j'ai été l'architecte, si vous voulez, le grand architecte. Et effectivement, facile d'avoir des décisions politiques par le haut. Après, il faut arriver à se faire accepter et surtout montrer qu'on a une plus-value. Parce que ce qui me perturbait quand même à l'époque, quoi, qui me perturbait, qui était mon challenge tous les jours, c'était d'un côté, c'était une époque où on cassait les armées. On fermait des bases, des régiments, on sacrifiait des milliers d'hommes que l'on serait bien content d'avoir aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, une capacité nouvelle que le politique portait fortement. Moi, j'étais redevable que cette capacité nouvelle produise immédiatement, le plus rapidement, des effets et surtout soit comprise et soit acceptée. D'où ce que j'évoque, le fait que l'on essaye de montrer très très vite, aussi bien sur l'offensif que sur le défensif, qu'on avait une valeur ajoutée et que les quelques milliers d'hommes que l'on mettait dans cette capacité, puisque c'est surtout de la matière grise, hein, de la cyber, et c'était justifié et regard des sacrifices que l'on faisait à côté.
Alors on a eu bien sûr des événements dramatiques sur le sol, sur la France. On a eu aussi des combats à mener à l'étranger. Vous dites aussi dans ce livre que à cause d'un certain nombre d'événements, de cette manière-là, on va dire c'est malheureux, mais ça a été le cas finalement. L'utilisation de la cyberdéfense et dans certains cas d'ailleurs de la cyberattaque, si on pense à l'Afghanistan par exemple, a montré sa place et ce qu'elle pouvait faire dans ces périodes compliquées.
Oui, tout à fait. Moi, je ferai un distinguo entre deux grosses capacités. La capacité défensive, où on est attaqué en permanence, que ce soit bien la cybercriminalité. C'est pas parce que le ministère des Armées est kaki ou bleu marine. C'est vrai que les attaques informatiques qui touchent tout le monde s'arrêtent à nos portes. Voilà. Des choses comme NotPetya ou WannaCry, on aurait très bien pu être concerné si on n'avait pas mis en place les bonnes mesures de précaution nécessaires. Puis après, des attaques à fin d'espionnage et ainsi de suite, ça existe toujours et les grands ministères sont aussi ciblés. Il n'y a qu'à voir les déclarations aussi bien de la DGSI que de l'Agence nationale l'ANSSI. Voilà. Et après, on a le deuxième volet, qui est plutôt le volet action, qui est l'accompagnement des opérations militaires, et qui est quelque chose qui, dans lequel, oui, on a des capacités, comme on est une armée d'emploi, surtout dans cette période qui était très marquée, 2012-2010, avec l'apparition de la création, 2011 la création, jusqu'en 2017, où j'ai quitté ce poste, oui, on était marqué par l'emploi. Les armées françaises étaient déployées à plusieurs endroits dans le monde, dans des opérations où on employait des bombes, des munitions. Donc là, l'emploi de l'arme informatique ne pose pas de problème particulier. Le cadre de notre emploi est le même que les forces militaires en uniforme, hein, droit des conflits armés, droit international humanitaire, code pénal. Voilà, c'est un peu sur quoi je reviens beaucoup dans le livre. Et j'insiste beaucoup sur ce... Parce que cet espace est virtuel, donc on peut se perdre facilement. Donc le militaire en uniforme doit avoir des guides, y compris pour moi en tant que commandant, contrôleur opérationnel. Je portais quand même la responsabilité pénale des actions que je demandais à mes adjoints d'être faits. Donc jusqu'où on peut aller pour obtenir des effets, tout en étant dans le droit.
Ça, c'est effectivement le cœur de ce sujet d'actualité. C'est jusqu'où on peut aller, sachant qu'en face, nos ennemis, sans forcément les citer, mais il y en a plusieurs, eux, peut-être, n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que vous allez être peut-être protégé par le droit français qui aurait été mis en place sur vos opérations, mais vous n'allez peut-être pas aller au-delà de certaines opérations pendant que d'autres vont y aller. Comment on arrive à se défendre dans ces conditions?
Se défendre, oui, mais c'est clair, une démocratie avec les traditions militaires des forces armées françaises, l'éthique que l'on enseigne dans nos écoles, puis que l'on apprend après tout au long de notre carrière de marin. Moi, je ne suis pas arrivé là en tant que commandant opérationnel par hasard. J'avais quand même derrière moi plus d'une quinzaine d'années d'opérations, un peu décrites dans le Liban, la guerre du Golfe, la première, la deuxième. Voilà, donc j'ai passé des longs mois. En opération. Donc, j'ai retraduit assez vite dans l'espace numérique toutes ces doctrines. C'était mon ADN. Pour ça que quand je dis je viens du cœur du ministère des Armées, je ne viens pas de la branche technique, je viens de la branche opérationnelle, donc du métier. Voilà. Et effectivement, une autocratie ne se comporte pas de la même façon qu'une démocratie, et c'est à moi ça me paraît être un élément important. Ce qui devient plus compliqué aujourd'hui, c'est que là, dans l'époque que j'ai vécue, on était clairement dans la propagande face à Daesh, dans lequel c'était des crimes contre l'humanité. Il y avait des organismes de propagande qui étaient revendiqués comme des unités paramilitaires. Donc pas de difficulté. Et puis la propagande venait de l'extérieur, venait principalement du cœur de la Syrie. Donc le cadre juridique était assez clair. Ce qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, c'est l'ingérence d'origine russe, puisque on n'est pas en guerre avec la Russie, on n'est pas en déclin. Donc voilà. Par contre, ce qui est bien, je trouve, aujourd'hui dans l'État, c'est que on dit, on te voit. C'est un peu pareil, c'est du harcèlement. Moi, j'ai toujours vécu, au début de ma carrière, à la mer, avec du harcèlement de bateaux russes ou d'avions russes autour des bâtiments et des bateaux de l'OTAN. Ils nous harcèlent, on leur répond. Ah oui, bon, t'étais là, je t'ai vu, je ne suis pas naïf. Et effectivement, je pense que les dernières déclarations de Viginum vont tout à fait dans le bon sens. Dire aux Russes, on sait que c'est toi, on t'a vu. Voilà, puis après, on se garde par des moyens de répondre, par tous les moyens diplomatiques ou à disposition de l'État.
On a vu, et je pense que pour tous les militaires qui peuvent écouter cet entretien, mais aussi les autres, la guerre en Europe à 3h30 d'ici. Si on reprenait peut-être un certain nombre de livres militaires ou en tout cas d'enseignements, on a l'impression presque de se retrouver du temps de Verdun avec des équipes qui vont utiliser certains outils. On a vu les Ukrainiens utiliser des drones pour vous parliez de la navale, pour abattre des bateaux. On a eu l'impression que c'est la première fois qu'on découvrait de nouveaux outils. Et peut-être qu'on n'était pas prêt à ça, parce que finalement, ce qui se passe, il y a à la fois des ressemblances sur la partie effectivement terre, mais on a vu des actions qu'on n'avait peut-être jamais anticipées.
Bon, là, je sors un petit peu de mon domaine, mais il ne faut pas oublier quand même qu'à 6 heures de voiture de Toulon, il n'y a pas très longtemps, il y a eu toutes les affaires d'ex-Yougoslavie, où on a vu quand même la fureur des... se décupler, quoi, des gens qui vivaient à peu près en paix depuis des années, s'étriper du jour au lendemain. Malheureusement, ce qui se passe en Ukraine, c'est un retour de la guerre de très haute intensité. Moi, je suis très admiratif devant les capacités de résilience du peuple ukrainien, sur leur capacité d'innovation aussi, de résistance au rouleau compresseur russe. Et je pense que c'est très sincèrement eux qui sont aux avant-postes du combat pour la paix. Le modèle qui est celui qui vient de Poutine est un modèle qui n'est pas celui des nations occidentales, qui respecte aucune de nos valeurs.
Justement, on le voit à travers cette guerre, mais on l'a vu avant. Justement, vous parliez de Daesh. Aujourd'hui, pour ceux qui s'occupent de la cyberdéfense, ça peut se passer sur des réseaux sociaux, ça peut se passer dans des médias. On a vu là récemment, on parlait de la Russie, des sites bidons. Avec la propagande effectivement russe, on a vu les Chinois faire aussi un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, la cyberattaque en tout cas, ils utilisent à peu près tout ce qu'ils peuvent utiliser au-delà du militaire.
Bah oui, totalement. C'est pour ça que dans une partie des choses qui est intéressante dans le livre, c'est regarder comment on est passé de l'OG cyber, toute petite cellule où j'avais dans mon état-major 3 personnes et puis moins de 100 personnes sur le ministère. Quand j'ai quitté, j'avais mis en place le commandement de la cyberdéfense. L'état-major devait faire 70 personnes et je devais avoir entre 1 500 et 2 000, je ne sais plus exactement les chiffres, personnels sous tutelle, quoi, sous mon autorité opérationnelle. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est devenu un milieu. Donc, ce milieu, c'est le numérique. Ce numérique, il a des facteurs, des facettes extrêmement positives. Voilà, sur des tas de sujets. Puis il a une facette extrêmement négative, c'est que beaucoup de gens peuvent s'y déployer de façon plus ou moins masquée et agir de façon malfaisante. Et avec une continuité de plus en plus entre l'attaque informatique, c'est-à-dire une attaque et soit de pénétration qui demande des moyens techniques de pénétration, de défacement, de vol de données, je vous laisse tout ce que vous voulez voir aujourd'hui, tout ce qui est les cryptolockers, et d'un côté combiné avec des attaques informationnelles du coup qui vont se passer sur les réseaux sociaux à partir d'avatars, à partir de sites, à partir d'IA, à partir de deepfake, et que c'est cette combinaison des deux qui fait que c'est devenu vraiment un milieu de combat. Et c'est pour ça qu'au sein de l'OTAN, c'est reconnu comme un milieu de combat depuis, je ne vais pas dire de bêtises, ça doit être 2012 ou 2011. Et puis au sein du Centre de préparation et de conduite des opérations militaires du CPCO, depuis qu'on a créé l'Office général de cyberdéfense, l'un de mes rôles principaux, c'était d'intégrer cet espace et ces moyens de combat dans toute la planification des différentes opérations militaires qu'on menait à droite et gauche, aussi bien avec son volet défensif et son volet action, qui progressivement, intégrer toute la guerre la guerre de perception. Et la guerre des perceptions, on la retrouve chez Sun Tzu, on la retrouve dans la théorie de la guerre depuis le départ. Donc intellectuellement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais le numérique permet un passage à l'échelle, et surtout le numérique permet d'agir en période de crise, en période de tension, pour déstabiliser son adversaire, et en restant au-delà, en deçà d'un seuil où les nations pourraient prétendre que leurs intérêts stratégiques sont menacés. Donc on le voit bien dans la propagande russe, ils vont utiliser toutes les informations de la société française, les petites crispations, pour en faire des choses à charge contre le président, contre l'État, contre les structures, contre la santé, voilà, pour mettre le trou, c'est la théorie du chaos. Ce qui est intéressant, c'est que les dictateurs écrivent toujours, ils aiment bien écrire. Donc Mein Kampf disait, vous lisez pour chez Daesh la théorie s'appelle le management de la sauvagerie. Tout était écrit en 2009, on l'a vu en 2014. Il suffit de lire les écrits des géopolitiques, de l'environnement de Poutine avec comment cette arme va être utilisée.
Vous parliez tout à l'heure de l'écosystème, hein, déjà effectivement sur cette cyberdéfense, cybersécurité. C'est aussi le public et le privé, les entreprises. Sur la bourse et la vie.com, je rencontre de nombreux dirigeants depuis des années. C'est vrai que ça nous arrive de parler de sujets de sécurité. Certains d'entre eux ont été victimes d'ailleurs d'attaques et ça leur a coûté cher. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut renforcer cet écosystème, renforcer des liens? Aux États-Unis, on sait qu'il existe par exemple la DARPA qui mélange les intérêts publics et privés sur le financement des entreprises. Est-ce qu'il faut, comment il faut pour accélérer en fait la prise de conscience de la part des entreprises?
Si vous voulez, la prise de conscience depuis 2010, vous ouvrez votre journal, vous avez des attaques informatiques dans tous les coins. Vous avez une agence nationale qui a été créée, vous avez des cadres juridiques qui ont été mis en place. Donc aujourd'hui, je veux dire que dans les grandes entreprises du CAC 40, celui qui fait preuve de négligence, pour moi, il est coupable. Je pense qu'il faut arrêter cette naïveté. Et un patron d'entreprise, il prend des assurances, il prend des garanties contre l'incendie. Aujourd'hui, un patron d'entreprise qui ne gère pas à bon niveau le risque cyber, pour moi, c'est un incompétent. Et je suis scandalisé par l'attaque contre les organismes de paiement là, des comptes avec 30 millions de pertes. Ceci est totalement anormal. Qu'on soit attaqué, qu'un attaquant pénètre, oui. Ça arrive à tout le monde. Quand vous voulez pénétrer un réseau, vous entrez. Après, que vous sachiez remplir votre mission quand vous êtes dans le réseau, parce qu'il faut vous déployer, il faut prendre le contrôle des comptes administrateurs, de l'Active Directory, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ensuite, vous allez commencer. Et pour faire ça, vous bougez dans le réseau. Donc, quand vous avez, ce qui est amusant d'ailleurs, vous avez eu cette annonce sur les données des Français. Et en même temps, vous avez eu une attaque sur le Crédit Agricole qui a duré 3 heures. Voilà, d'un côté, vous avez une société préparée qui a fait la priorité de cybersécurité, sa priorité. Et de l'autre côté, je ne veux pas me prononcer sur le fond, je ne connais pas le de ces techniques. Mais ça me paraît totalement aujourd'hui anormal, surtout quand on joue avec les données de santé. Donc je pense que là, il y a un moment donné, les grands patrons sont capables d'être responsables, sont capables de faire leurs investissements. Et ben, faut peut-être qu'ils aient une vue moins court terme et un peu plus long terme, en sachant que là, en faisant l'impasse sur la cybersécurité, et ben, c'est l'avenir de leur entreprise qu'ils mettent en danger.
Oui, on a vu sur ce sujet de santé, effectivement, pour les hôpitaux, on s'est aperçu que certains hôpitaux étaient en retard sur leurs investissements informatiques. Et voilà, comme vous dites, c'est permanent, c'est quotidien, mais il faut investir, il faut avoir les équipes. Est-ce que, ça c'est peut-être un petit mot pour les jeunes qui nous écoutent, se dire, je voudrais travailler dans la cybersécurité, c'est un moyen aussi de défendre mon pays, d'être utile par ce biais-là. Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'on évalue les besoins aujourd'hui?
Oui, les besoins sont évalués. Je vais me tromper sur le chiffre, mais on prévoit qu'il manquera plusieurs dizaines de milliers de postes. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de... qui aime le numérique... qui a envie d'être à la fois dans une matière très technique et dans une matière qui est aussi très opérationnelle, qui vient dans le numérique. C'est la grande, pour moi, c'est la grande aventure de leur génération. C'est un domaine, il y a des métiers extrêmement différents. Vous avez l'intelligence artificielle, vous avez faire parler les data, puis vous avez toute la partie des hackers, toute la partie test. Et le hacker, aujourd'hui, c'est quand même un ingénieur du niveau un peu plus Bac plus 5, mais il a une forme d'esprit qui est non pas d'appliquer des processus ou faire du codage, il va essayer de trouver la faille, trouver le trou. Donc c'est des matières extrêmement professionnelles. Puis si les gens veulent aller faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire dans le monde privé, qu'ils viennent au ministère des Armées. Quand aujourd'hui vous voulez aller conduire un char et tirer avec des boulets, vaut mieux le faire au ministère des Armées que dans sa campagne tout seul. Donc le ministère des Armées est un énorme recruteur. Quand je dis ministère des Armées, c'est tous les services, y compris les services de renseignement, recrutent beaucoup sur des métiers qui sont particulièrement intéressants. Et je pense que venir faire une période de 5 ans au ministère des Armées, c'est quelque chose après d'assez remarquable et ça nourrit l'écosystème. Voilà, et puis après, il y a des grands partenaires. Aujourd'hui, je suis président du pôle d'excellence cyber. On a plus de 120 membres, 120 entreprises, avec des tas de métiers différents, des tas de métiers sur l'OSINT, des métiers sur la désinformation, des métiers très techniques sur les nouvelles formes d'investigation dans les réseaux. C'est un métier de chasseur aussi, parce que tout à l'heure, je vous dis, quand vous avez un réseau complexe, j'en sais rien, 10 000, 100 000, 300 000 postes de travail dans des grandes entreprises, c'est très compliqué à défendre, même si vous mettez des paris. Donc, un vrai attaquant qui est bien outillé arrive toujours à rentrer. Une fois qu'il est dedans, bah, il va peut-être connaître quelques indiscrétions. Donc, bah, là, vous avez des tas de métiers d'investigation interne pour aller rechercher une épingle d'une botte de foin. Et moi, je le compare souvent aussi à la guerre sous-marine. Les sous-marins, vous savez très bien que pour être discret, ils ne font pas de bruit, pour faire moins de bruit que les bandes crevettes. Et tout le jeu de la lutte anti-sous-marine, c'est de faire en sorte que le sous-marin promette une indiscrétion ou faire suffisamment d'observations. Quand vous chassez un intrus dans un réseau, c'est de la chasse. Donc là, vous avez dans cet espace des choses ou des tas de jeunes qui ne sont pas forcément très adaptés non plus au système scolaire classique peuvent se révéler, puisque vous avez des tas de passerelles. Vous n'êtes pas forcément obligé de sortir d'une grande école d'ingénieurs généralistes. Et ben, vous avez bien souvent dans les équipes de hacking ou de Red Team, c'est des gens qui sont venus avec un très très fort côté autodidacte. Et qui sont progressivement rattrapés des niveaux de formation. Typiquement, on parle de l'école 42, mais vous avez aussi l'école 2600, vous avez l'NCBS à Vannes, vous avez Epitech, vous avez le SIA. Des écoles, il commence à y en avoir de plus en plus.
On se compare effectivement aux autres pays dans cette guerre et pour notre cyberdéfense, mais c'est un peu comme dans le domaine des technologies avec les ingénieurs. On se dit on forme tant d'ingénieurs par an et puis tel autre pays en forme 10 fois plus, tel autre 15 fois plus. Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir ce niveau de cybersécurité à un très haut niveau? Ce que vous avez expliqué en disant voilà, on va être sur certaines barrières à certains moments, on va se comporter de cette manière-là. Si en face, on a 10, 15 fois plus de moyens humains déjà, est-ce que nous, sur la partie technologique et humaine, on va pouvoir tenir?
Sur la partie humaine, la formation, de très gros efforts sont faits par l'État. Vous prenez typiquement les investissements de France 2030. Vous avez beaucoup d'investissements sur ce qu'on appelle compétences et métiers d'avenir. Et typiquement, l'Université de Rennes vient de récupérer un gros projet qui s'appelle Cyber Skill for All. Je crois que c'est entre 10 et 15 millions d'euros pour former. Voilà, donc puis il n'est pas le seul, il y en a différents endroits. Donc il y a un gros effort, effectivement, de formation qui se heurte quand même au fait que le nombre de candidats n'est pas forcément assez à niveau, puisque comme on n'enseigne plus assez de mathématiques, ça fait qu'on sort des élèves qui n'ont pas le niveau pour aller dans ces écoles. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des passerelles et ainsi de suite. Ça, c'est sur la partie un peu formation. Après, sur la partie R&D, ce que moi je vois aujourd'hui dans mon rôle, c'est qu'il y a énormément d'innovation. Énormément, on a des startups, des idées dans tous les coins. On a des belles boîtes qui montent jusqu'à une trentaine, 150 personnes. Mais il y a un vrai, vrai, vrai problème qui est le passage à l'échelle. Donc là, c'est cet effort. Pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'une boîte d'une trentaine de personnes ou ainsi de suite, le jour où le fondateur s'en va, la boîte s'effondre parce que c'est souvent une équipe très rapprochée. Donc ça ne crée pas de la valeur dans la durée. Et quand on regarde les sociétés américaines, israélo-américaines, elles ont cette vision de la durée. Elles ont été capables de lever 300 millions d'euros. Donc elles sont, voilà. Et le vrai débat pour la France, et parce que la France, d'ailleurs pour l'Europe, c'est d'avoir une industrie autonome. Aujourd'hui, il faut arrêter d'être naïf quand on regarde les déclarations de Trump qui dit l'Europe va payer. Quand on connaît la guerre économique qui est menée depuis des années par les États-Unis vis-à-vis de l'Europe, parce que c'est son marché d'expansion, il ne faut pas être surpris qu'il y ait une guerre économique. C'est normal, les nations. Par contre, et aujourd'hui, je crois qu'il y a suffisamment d'exemples qui ont été mis en avant pour être assez prudent et ne pas obérer l'avenir de dans 2 ans, de dans 3 ans et retrouver une sorte de... Moi, j'aime pas le mot souveraineté numérique, parce que souveraineté numérique, ça veut croire qu'on est justement qu'on est une certaine puissance. Non, c'est bien comme dans le monde maritime. Il y a des gens qui sont bien, bien, bien plus forts que nous. Donc là-dedans, il faut retrouver une certaine forme d'autonomie.
Ça veut dire que, en tout cas, compte tenu des évolutions technologiques qui sont très rapides, on pourrait presque dire qu'on en est au début, même si on a fait déjà des avancées que vous avez rappelées, que vous décrivez dans ce livre, en termes de moyens et d'investissement et de savoir-faire. Malgré tout, on n'en est qu'au début, parce qu'on parlait du métaverse, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Quand les jeunes regardent aujourd'hui les vidéos, on voit toute la partie IA avec les vidéos, on se dit va falloir encore monter d'un cran dans les prochaines années.
Oui, totalement, mais je pense que déjà faire de dire on n'est qu'au début, non, on est dans une dynamique. Donc ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. C'est une dynamique, donc c'est un mouvement. Voilà, c'est comme si vous me disiez l'océan a un début et l'océan a une fin. Non, on est dans cette dynamique. Donc, faut monter dans le camion, faut monter dans le TGV de cette dynamique et essayer effectivement d'avoir un coup d'avance, de comprendre qu'est-ce qui va nous arriver dans 6 mois et d'avoir des structures agiles. C'est ça que moi, qui me paraît peut-être très important, être capable de s'adapter, de trouver des partenaires, s'adapter.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Arnaud Coussilière. Vous êtes donc vice-amiral d'escadre et donc vous avez publié aux éditions Talendier ce livre « Soldats de la cyberguerre » avec Aude Leroy.
Merci.